Sujet qui revient le plus fréquemment dans les messages du dimanche matin, ou alors aussi dans les intros de culte et dans le culte en général. Je pense, et vous serez peut-être d'accord avec moi, que c'est l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ. Je pense quand même que c'est ce dont on parle le plus. L'œuvre de salut accomplie par Jésus. Quand nous parlons de l'œuvre de Jésus, nous en parlons comme quelque chose du passé, quelque chose qui a été accompli, qui est terminé, qui a été fait une fois pour toutes. Il y a quelques semaines, c'était l'ascension. L'ascension qui, au moment du ministère terrestre de Jésus, a mis un terme justement à son ministère terrestre. Et la question que je me suis posée pour ce matin est celle-ci: depuis son ascension, que fait Jésus? Maintenant qu'il est monté au ciel, que fait Jésus? Son œuvre de salut est terminée? Est-il en vacances? Se repose-t-il d'un repos bien mérité après avoir accompli le salut? Et avant de revenir chercher les siens, se repose-t-il? Que fait Jésus au ciel aujourd'hui? Alors, si l'ascension a bel et bien mis fin au ministère terrestre de Jésus, ce n'est pas pour autant que Jésus ne fait plus rien. Ce n'est pas pour autant que Jésus n'est plus à l'œuvre. Son absence physique de la terre ne l'empêche pas d'être actif ici-bas. Il est actif, alors, plus pour accomplir le salut, puisque ça, c'est terminé, ça a été fait une fois pour toutes, mais il est actif quand même. Et nous allons le constater dans ce message. Tout de suite après être monté au ciel, 10 jours après, pour être précis, Jésus, à la Pentecôte, a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur qu'il avait promis à ses disciples. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, donc, et à chaque fois que quelqu'un met sa confiance dans l'œuvre salvatrice de Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans son cœur, en lui. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. L'envoi de l'Esprit-Saint par Jésus fait donc partie de ces choses que Jésus a faites après être monté au ciel, mais qu'il a faites une fois pour toutes. La Pentecôte, c'était une fois pour toutes. Donc l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte ne répond pas à notre question « Que fait Jésus aujourd'hui ?» Maintenant, en ce moment. Alors, pour répondre à la question qui nous intéresse ce matin, j'aimerais apporter 4 éléments de réponse. 4 éléments de réponse qui, je l'espère, c'est en tout cas ma prière, vont nous encourager, vont fortifier notre foi, vont consolider notre espérance. Le premier élément de réponse à la question qui nous intéresse ce matin est que Jésus est maintenant assis à la droite de son Père. Qu'est-ce que cela signifie? Avant de répondre à cette question, quelques textes bibliques qui nous le disent clairement. Un premier texte dans l'Ancien Testament, psaume 110, verset 1. De David, psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Luc, chapitre 22, versets 67 à 69, ils dirent, Jésus à ce moment-là est devant le Sanhédrin, ils dirent, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez point, et si je vous interroge, vous ne répondrez point. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Le début de la lettre aux Hébreux, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et puis un dernier texte, toujours dans l'Épître aux Hébreux. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, le Christ, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Déjà prophétisé par David, au psaume 110, quand Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie au moins deux choses. Premièrement, cela signifie que son œuvre de salut est maintenant entièrement terminée. Elle est achevée et complète. Jésus s'est assis à la droite de son Père parce que tout ce qui devait être fait pour notre salut l'a été fait et l'a été parfaitement fait. Tout est accompli, a dit Jésus sur la croix. Tout est accompli pour notre salut. C'est le sens donc premier de cette position de Jésus au ciel. Et on peut noter ici que dans le tabernacle, puis dans le temple, les sacrificateurs ne s'asseyaient jamais. Pourquoi ? Parce que leur service n'était jamais terminé. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de siège dans le mobilier du sanctuaire. Jésus, lui, s'est assis à la droite de son Père à perpétuité, parce que ce qu'il devait faire pour notre salut, pour la purification de nos péchés, a été parfaitement fait à la croix de Golgotha. Et c'est bien ce que nous avons lu dans le dernier texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 11 à 13. « Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité, à la droite de Dieu. » Oui, tout ce qui devait être fait pour notre salut l'a été de manière parfaite et complète. Et en tant qu'enfants de Dieu, au bénéfice de ce salut, nous pouvons nous reposer dans cette vérité d'un salut parfait auquel il n'y a rien à ajouter. La deuxième signification de cette position de Jésus au ciel aujourd'hui, c'est que c'est une position d'honneur. Une position d'honneur et une position d'autorité. À l'époque, et bien après aussi, la place située juste à droite de celle du souverain était une place d'honneur et une place d'autorité. Celui qui était assis à la droite du roi, à la droite du souverain, participait à la royauté de celui-ci et il participait à la gloire du roi. En s'asseyant à la droite de Dieu le Père, Jésus a reçu l'honneur, l'autorité et la gloire. Être assis à la droite de Dieu nous parle de royauté, de la royauté de Jésus. Et cela nous amène à notre deuxième élément de réponse. À la question de ce que Jésus fait aujourd'hui au ciel, nous répondons qu'il règne. Jésus règne. Il est le roi des rois. Et il règne. Alors, il va falloir un petit peu expliquer ça. Quelques textes, tout d'abord. Matthieu 28, pardon, qui est déjà affiché. Jésus est sur le point de quitter ses disciples. Et que leur dit-il ? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Dans le ciel et sur la terre. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il l'a mise en action dans le Christ, c'est-à-dire la puissance de Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et puis un dernier texte, 1 Corinthiens 15, ensuite viendra la fin, quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Chers amis, malgré les apparences, Jésus règne. Il est assis à la droite de Dieu et il règne. Alors qu'est-ce que cela veut dire? En quoi consiste ce règne du Christ? S'il règne, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas plus visible? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus évident s'il règne? Quand on parle du règne de Christ, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qu'on appelle son règne universel et il faut parler ensuite du règne spirituel. Tout d'abord, le règne universel de Christ, de quoi s'agit-il? À quoi correspond ce règne? Par sa nature divine, en tant que Fils de Dieu, Jésus participe à la royauté de son Père, et cela de toute éternité. Il est le roi de toute la création, le roi de l'univers. C'est d'ailleurs par lui que tout a été créé. Et c'est en lui, dit Paul, que toute chose subsiste. Parce qu'il est Dieu, Jésus règne sur sa création. Mais ce règne du Christ a pris une dimension nouvelle après la croix. Parce que Jésus n'est plus seulement Dieu, il est aussi homme. Il est le Christ et c'est en tant que Fils de l'homme que Jésus va recevoir après la croix tout pouvoir dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir pour faire quoi ? Tout pouvoir pour faire concourir toute chose pour le bien de son peuple, le bien de son Église, le bien de celles et ceux qui sont appelés selon son bon vouloir. Quand nous citons le verset bien connu de Romains 8, « Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », déjà on oublie souvent la suite, de ceux qui sont appelés selon son dessein, nous ne faisons rien d'autre, quand nous citons ce verset, nous ne faisons rien d'autre qu'affirmer que le Christ règne. S'il fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est parce qu'il règne, sinon il ne pourrait pas le faire. Le Christ règne et il règne pour notre bien éternel, pour le bien éternel de son Église, de ses enfants, pour l'accomplissement de son plan. Tout pouvoir pour quoi faire? Tout pouvoir aussi pour assujettir toute chose. Nous vivons dans une création qui s'est révoltée contre son Créateur. Nous en faisons partie et nous étions aussi, et peut-être sommes-nous encore, de celles et ceux qui sont en révolte contre le Créateur. Le règne universel de Christ, c'est la subordination de toute chose au plan de rédemption de Dieu. Chers amis, le règne universel de Jésus, il faut bien le reconnaître, n'est pas très visible pour l'instant. Mais ne nous y trompons pas, Jésus règne. Il règne aujourd'hui et il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis tous ses ennemis, avons-nous lu. Tous ses ennemis sous ses pieds, alors son règne sera visible de tous. Oui, Jésus règne aujourd'hui à la droite du Père pour établir sa domination sur toute chose. Et quand celle-ci sera établie, alors, nous l'avons lu aussi, il remettra le royaume à son Père. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Le deuxième aspect du règne de Christ aujourd'hui, c'est son règne spirituel. De quoi s'agit-il ? Le règne spirituel de Christ, c'est son règne dans l'Église. C'est son règne dans le cœur de ses enfants, de ses disciples. Parce que oui, Jésus est le chef de l'Église. Et il y règne. Alors, oui, de manière encore très imparfaite. Il faut bien le reconnaître. Mais il règne dans les cœurs régénérés. En tout cas, nous faisons tout pour que ce soit le cas. Tous nos efforts pour qu'il ait la première place dans notre vie et pour qu'il règne dans nos cœurs. Il bâtit son Église. S'il règne sur l'univers, sur sa création, c'est en vertu de sa divinité. Et s'il règne dans les cœurs, dans l'Église, c'est en vertu de son œuvre accomplie à la croix. Le règne spirituel de Christ, c'est ce que le Nouveau Testament appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et ce royaume est déjà une réalité aujourd'hui dans le cœur des chrétiens. C'est d'ailleurs un royaume qui a commencé avec la venue de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Voilà ce que Jésus disait il y a 2000 ans. Il a inauguré le royaume de Dieu. Alors, quelle est la nature de ce royaume ? Non, ce n'est pas un royaume terrestre. Beaucoup se sont trompés à ce sujet. Ce n'est pas la visée. Ce royaume n'est pas un royaume terrestre, ce n'est pas un royaume visible, mais c'est une réalité spirituelle. Regardez ce que nous lisons dans Luc 17, interrogé par les pharisiens, pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le règne spirituel de Christ est donc pour l'heure un règne invisible. Mais un jour viendra où ce règne sera visible. Si le règne de Christ est aujourd'hui une réalité spirituelle, invisible et imparfaite, il sera un jour, lors du retour de Jésus, une réalité visible de tous et parfaite. Le règne de la grâce deviendra le règne de la gloire de Dieu. Chers amis, nous n'avons pas à attendre que le règne de Dieu vienne. Il a commencé avec la venue de Jésus. Ce que nous attendons, c'est que le règne de Dieu soit établi avec puissance. Voilà ce que nous attendons. Qu'il soit établi avec puissance, visiblement et parfaitement. Et c'est ce que nous disons quand nous prions dans la prière du Notre Père, « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous n'attendons pas le jour où Christ règnera, il règne déjà. Mais nous attendons le jour où son règne sera pleinement établi et où nous régnerons avec lui pour l'éternité. Troisième élément de réponse à la question de ce que Jésus fait au ciel aujourd'hui, c'est qu'il intercède pour les siens. Ça a déjà été évoqué ce matin. Qui accusera les élus de Dieu ? Dit Paul aux Romains. Qui est celui qui justifie ? Qui les condamnera ? Le Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Et il intercède pour nous. Hébreux 7, versets 24 et 25, « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus intercède pour les siens. Après avoir parlé de son rôle de roi, parce que c'était ce dont il était question quand nous avons dit qu'il règne, hein, nous parlions du rôle de roi, nous parlons maintenant ici de son rôle de sacrificateur. Alors vous allez me dire, mais non, le rôle de sacrificateur s'est terminé avec l'œuvre de la croix. Ça s'est terminé par son sacrifice. Oui, mais en partie seulement. Il est vrai que l'œuvre expiatoire où Jésus expie les péchés des siens est pleinement achevée par la mort et par la résurrection de Jésus. Mais son rôle de prêtre, son rôle sacerdotal, lui, continue dans l'éternité. Nous lisons dans les psaumes et dans l'épître aux Hébreux que Jésus est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce de Jésus est un sacerdoce éternel qui se poursuit après son ascension. Et qui se poursuit comment ? Il se poursuit par son intercession pour les siens. En Jésus, nous avons un avocat auprès du Père. Il nous représente. Il plaide notre cause. Il intercède pour nous. Alors que dire de son intercession ? Je la qualifierais juste de deux manières. Premièrement, Christ intercède avec autorité. Quand nous pensons à l'intercession du Christ, il ne faudrait pas imaginer le Fils devant son Père en train de le supplier pour que le Père lui accorde ce qu'il lui demande, en train de l'implorer pour obtenir quelque faveur de son Père. C'est absolument pas ça. L'intercession de Christ auprès de son Père, pour ses disciples, elle est empreinte d'autorité. Et ce, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'il est le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est l'égal du Père. Lui et le Père sont un. J'aurais pu convoquer ici beaucoup de textes qui le disent. Ça veut dire que le Fils est l'égal de son Père, il est d'essence divine, il est Dieu. Et donc la requête du Fils à son Père, c'est une requête d'égal à égal. Et non pas comme nous, quand nous intercédons, où nous sommes une créature qui demande quelque chose à son Créateur. C'est absolument pas la même chose pour le Christ. Son intercession est empreinte d'autorité parce qu'il est le Fils, parce qu'il est Dieu. Et puis la deuxième raison qui fait que l'autorité de Jésus est empreinte que l'intercession est empreinte d'autorité, c'est parce qu'elle repose sur l'œuvre parfaite de la croix. En d'autres mots, cette intercession du Christ repose sur le fait que tout a été accompli. Et parfaitement accompli. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'en menant à la perfection l'œuvre que le Père lui avait confiée, l'œuvre du salut, le Christ s'est acquis le droit d'être exaucé par son Père. Et voilà ce que Jésus pouvait dire dans la fameuse prière sacerdotale de Jean 17, « Père, je veux, c'est pas je voudrais, Père, s'il te plaît, est-ce que ça serait possible ? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux. » L'intercession du Christ est empreinte d'autorité, en vertu de sa divinité et de son œuvre parfaite à la croix. La deuxième qualification de l'intercession du Christ, c'est qu'elle est efficace à 100%. Pas 99,9, à 100%. Ça veut dire que tout ce que le Fils demande, il le reçoit. Tout. En fait, la prière de Jésus ne faillit jamais. Ce qu'il demande, il sait qu'il le reçoit. Et souvenez-vous de cette parole de Jésus devant le tombeau de Lazare. Voilà ce qu'il dit dans Jean 11. Ils ôtèrent donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Lazare vient d'être ressuscité. Le Père a exaucé le Fils. Et que dit Jésus ? « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Mais bon, j'ai prié parce qu'il y a les disciples. J'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais moi, je savais, bien sûr, que tu m'exauces toujours. Je n'avais même pas vraiment besoin de te demander. Son efficacité, son intercession est efficace à 100%. Alors, quelques mots rapidement sur ce que Jésus demande pour les siens. Alors, on le dit, il intercède pour nous, mais que demande-t-il à son Père avec autorité et la certitude que le Père va le lui donner? Alors déjà, j'aimerais rappeler ici que nous parlons d'un intercesseur qui nous connaît, qui nous comprend parfaitement. Ça, c'est important. Nous ne sommes que des hommes, mais le Christ aussi est un homme. Il a vécu notre humanité, il a vécu nos combats, il nous comprend parfaitement. Et il peut demander ce dont nous avons vraiment besoin, parce qu'il nous comprend. L'Épître aux Hébreux le souligne quand elle dit que Jésus peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Nous pouvons donc avec assurance, et d'ailleurs ce que dit le texte, nous approcher du trône de la grâce, nous approcher de celui qui nous comprend parfaitement, de celui qui intercède pour nous en connaissant nos véritables besoins, de celui qui intercède pour nous avec autorité et efficacité. Chers amis, Jésus intercède pour nous et il le fait en nous comprenant parfaitement, en sachant exactement ce dont nous avons besoin. Je trouve cette pensée très réconfortante. En regardant de plus près la prière de Jésus pour les siens dans Jean 17, nous voyons que Jésus demandait à ce moment-là quatre choses. Et il les demandait pour les disciples qui étaient présents, mais il les demandait aussi pour les disciples à venir, dont nous faisons partie si nous sommes disciples du Seigneur. Et donc ce qu'il demandait là, c'est ce qu'il demande pour nous. En tout cas, ces choses-là, nous savons qu'il les demande pour nous. Rapidement, que demande-t-il pour les siens ? Il demande la protection spirituelle. Père, Saint, garde-les en ton nom. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Pourquoi est-ce que nous croyons que nous ne perdons pas le salut si nous sommes en Christ ? Parce que le Fils intercède avec autorité pour que nous soyons gardés par la main du Père. Jésus intercède pour la protection spirituelle des siens. Il intercède aussi pour leur sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Par la vérité, ta parole est la vérité. Puis, il intercède pour leur unité, nous l'avons chanté ce matin. Nous pouvons le chanter avec confiance parce que c'est sa volonté que nous soyons unis. L'unité, nous la recevons, nous devons la préserver. Ce n'est pas seulement pour eux, dit Jésus dans Jean 17, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi pour leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus intercède pour notre unité. Et puis enfin, Jésus intercède pour que nous partagions un jour sa gloire. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Chers amis, quel intercesseur merveilleux nous avons en Jésus-Christ. pour paraphraser, détourner un peu une phrase d'un cantique bien connu. C'est une force et un repos pour notre foi que de comprendre l'intercession de Jésus pour nous. Une intercession empreinte d'autorité, une intercession efficace à 100%, une intercession qui nous comprend parfaitement et qui est toujours pour notre bien. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi et de t'avoir pour intercesseur auprès du Père. Quatrième et dernier élément de réponse à la question de ce que Jésus fait au ciel aujourd'hui, c'est qu'il continue à révéler le Père. Nous avons parlé de son rôle de roi, nous venons de parler de son rôle de sacrificateur, et c'est maintenant ici son rôle de prophète que nous abordons. Jésus a agi comme un prophète quand il a été sur terre. Et même avant qu'il ne soit physiquement présent, il agissait par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est ce que Pierre dit dans sa première épître. Il dit « les prophètes » en parlant des prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux, qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Oui, c'est l'Esprit de Christ qui était à l'œuvre dans l'Ancien Testament, dans les prophètes de l'Ancien Testament. S'il est vrai que Christ opérait déjà par son esprit dans les prophètes de l'Ancien Testament, c'est aussi vrai ou encore vrai après l'ascension. À ses disciples qu'il allait bientôt quitter, voilà ce que Jésus leur a dit dans Jean 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il, le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, après que le Christ soit parti, le Saint-Esprit prend ce qui est du Père, ce qui est du Fils, et il l'annonce à l'Église. Et au travers de cette œuvre de l'Esprit, c'est le Christ qui continue à parler. Alors c'est vrai, particulièrement vrai du ministère apostolique, des apôtres donc, dans le Nouveau Testament, mais ça continue à être vrai par le ministère de la parole, cette parole que l'Esprit-Saint a lui-même inspirée. C'est vrai donc par le ministère de la parole et l'application dans les cœurs de cette parole par le Saint-Esprit. Jésus est celui qui révèle le Père. Mais comme le Père est infini, c'est un des attributs de Dieu, il est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Ça dépasse mon entendement, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est ce que nous dit la Bible. Alors comme le Père est infini, le travail prophétique du Fils qui révèle le Père ne prendra jamais fin. Il n'aura jamais fini de nous révéler qui est Dieu le Père. Aujourd'hui, Jésus révèle le Père par le Saint-Esprit et par sa parole jusqu'au jour où il le fera ouvertement, comme il l'a promis à ses disciples avant de partir. « Je vous ai parlé ainsi en parabole, disait Jésus à ses disciples, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. » Alors que fait Jésus au ciel aujourd'hui? Il ne se tourne pas les pouces, ça c'est une certitude. Et ce que nous pouvons dire à la fin de ce message, c'est que Jésus est à l'œuvre. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Alors non plus pour nous acquérir le salut, c'est fait. Mais il est à l'œuvre sur les bases d'un salut qui a été parfaitement accompli. Il est assis à la droite du Père et il règne. Il règne sur l'univers jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il règne dans les cœurs, dans l'Église, jusqu'au jour où elle sera parfaite et sans tache. Il règne souverainement sur toutes choses, jusqu'à l'accomplissement final de son plan de rédemption, jusqu'au jour où il remettra le royaume à son Père. Oui, Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les siens, avec autorité, avec efficacité, et toujours pour leur bien et en connaissance de cause. Et enfin, Jésus est assis à la droite de Dieu et il continue à révéler le Père. Il révèle le Père par le Saint-Esprit. Il révèle le Père par sa parole. On pourrait résumer tout ce qu'on a dit en répondant à la question « Que fait Jésus au ciel aujourd'hui ?» en disant qu'il continue à être roi, sacrificateur et prophète. Il travaille à l'accomplissement de toutes choses selon sa volonté et il prépare son retour glorieux. Amen.